monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand en des frontières, le commerce mondialise, que sous sa bannière, toutes les nations agonisent, quand pour seule culture, c'est le règne de l'argent, que sans fioriture, on vit rationnellement. Dans ce monde épanoui, libéral son parti pris, où l'argent nous réunit, moi je me dis. Tout le monde il est beau, le commerce réjouit.
Les adversaires de l'initiative pour des multinationales responsables brandissent souvent les mêmes arguments pour justifier leur opposition. On retrouve d'ailleurs régulièrement ces mêmes arguments lorsqu'il s'agit de peindre le diable sur la muraille lors de votations populaires. Voici un petit mode d'emploi pour répondre du tac au tac à 5 des arguments les plus courants et quelque peu trompeurs chez les opposants.
L'initiative conduirait à des suppressions de postes de travail et à une vague de plaintes contre les entreprises suisses. Elle serait inutile et constituerait une voie isolée pour la Suisse.
Voici nos réponses aux arguments les plus fréquents des opposants et opposantes à l'initiative.
Primo, l'initiative nuit à la place économique suisse et menace des places de travail.
À chaque votation, les associations économiques brandissent la menace des pertes d'emplois et du départ à l'étranger de certaines sociétés. Mais cet alarmisme ne s'est jamais vérifié, même après l'acceptation de l'initiative contre les rémunérations abusives ou le rejet de la troisième réforme de l'imposition des entreprises, RIE 3. Ce qui importe aux entreprises pour choisir leur siège, ce sont des conditions politiques stables, une bonne infrastructure et des gens bien formés.
Par ailleurs, si des entreprises préfèrent quitter la Suisse plutôt que de respecter les droits fondamentaux humains, cela contribuera à renforcer l'image de la place économique plutôt que de lui nuire.
Deuxièmement, les régulations qu'exige l'initiative concernent le plan international.
L'initiative pour des multinationales responsables n'est pas une voie isolée empruntée par la Suisse. En 2011, l'ONU a approuvé, après maintes discussions avec des représentants et des représentantes de l'économie et de la société civile, ses principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains. Tous les pays sont désormais tenus d'intégrer ces principes comme leur législation. Des pays comme la France et la Grande-Bretagne, de même que l'UE, ont déjà fait des démarches dans cette direction et, ou, édicté des lois. Si la Suisse ne s'y met pas, elle risque la même débâcle qu'avec le secret bancaire.
Par ailleurs, une entreprise qui fait des affaires au niveau mondial doit aussi assumer ses responsabilités sur le plan mondial.
Tertio, l'initiative est inutile. Les entreprises suisses font déjà beaucoup de choses de leur propre chef.
Malheureusement, cette affirmation ne correspond pas à la réalité. Durant ces 5 dernières années, les multinationales suisses étaient impliquées dans au moins 64 affaires, comme l'a démontré une analyse de Pain pour le prochain et Action de Carême. En termes de responsabilité sociale, les entreprises suisses se situent, en comparaison internationale, à la 16e place sur 24, derrière la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et même les États-Unis.
Par ailleurs, si les entreprises respectent déjà volontairement les dispositions exigées par l'initiative, pourquoi les associations économiques combattent-elles aussi farouchement l'initiative ?
Quartio, l'initiative est irréaliste. Aucune entreprise ne peut contrôler en détail toute sa chaîne d'approvisionnement.
Ce n'est pas ce que réclame l'initiative. Les entreprises doivent bien s'acquitter d'un devoir de diligence pour leur chaîne d'approvisionnement. Elles ne sont toutefois entièrement responsables que de leurs filiales et des entreprises qu'elles contrôlent. Une grande partie des PME n'est pas concernée par l'initiative.
Par ailleurs, le devoir de diligence pour la chaîne d'approvisionnement n'est pas une invention du comité d'initiative, mais émane des principes directeurs de l'ONU, approuvés par des États, mais également des associations économiques internationales.
Quinquio, L'initiative expose les entreprises suisses à une vague de plaintes.
Ne peut être tenu pour responsable que celui qui tolère, de la part des filiales et des fournisseurs contrôlés, des violations des droits humains et des atteintes à l'environnement. Qui peut prouver avoir appliqué un devoir de diligence en toute bonne foi n'a rien à craindre.
Par ailleurs, sans mécanisme contraignant, l'initiative resterait inopérante. C'est le seul moyen de garantir que tous respectent les règles et que les entreprises progressistes ne soient pas désavantagées.
En 2016, un collectif formé par quatre lieux de la vie associative lausannoise, Alliance Sud Infodoc, Espace Dickens, la Maison de quartier Sougar et Pôle Sud, organisait une série d'événements ayant trait à la responsabilité des multinationales autour du thème « Au nom du profit, tout est permis ». Une programmation de plusieurs événements et manifestations étalée sur 6 mois qui coïncidait avec le dépôt de l'initiative pour des multinationales responsables. Dans le cadre des activités de Pôle Sud, Radio Django s'était associé avec une série de 4 émissions sur le sujet. Nous avons repêché des entrailles de la radio, une de ces émissions qui est encore d'actualité. Nous vous proposons donc ici la rediffusion d'un entretien avec Sébastien Meyer, suisse roman et auteur de « Le nom du père », un roman policier qui amène le lecteur dans les bureaux aseptisés des multinationales et jette une lumière crue sur la Suisse des banques et les montages fiscaux. Cela se passait le 17 mai 2016.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et puis autrement, ça va, Fabio ?
Oui, ça va bien.
Bon,
oui,
bien. Ça va
très bien. Bon, bah, et toi, Fabien ?
Mais très bien, merci. Ben voilà, autrement, ça va être aussi le nom d'un collectif consacré aux multinationales, au nom du profit, tout est permis. Donc, Django s'est associé à cet événement et vous propose quelques regards radiophoniques. Comme nous l'avons mentionné dans le sommaire, nous accueillons également Sébastien Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de Le nom du père, un polar qui jette une lumière crue sur la Suisse, des banques et des montages fiscaux. Mais avant d'aborder votre polar et pour introduire le sujet sur le négoce du pétrole, nous vous proposons de prolonger dans cette mise en onde d'une séquence du roman de Sébastien Meyer qui devrait déjà vous éclairer sur l'évasion fiscale et la corruption. Mais écoutons plutôt.
La procureure Émilie Rossetti rencontre Franz Wengler de la Déclaration helvétique au buffet première classe à l'extrémité ouest du quai numéro 1. C'est une brasserie d'une 50aine de tables, dotée d'un plafond à 10 mètres et de peintures sans finesse, représentant l'essence même de la Suisse, le cervin, lucerne, le léman et un bateau Belle Époque, de la nature et du blanc, de la paix et de la tranquillité.
Pour schématiser, les négociants ont pour mission de faire transiter aussi rapidement que possible des ressources naturelles des pays producteurs vers des pays consommateurs. Dans certains cas, la chose peut se résumer ainsi. Faire sortir des matières premières vitales des pays qui en ont besoin pour les vendre à des pays qui les gaspillent, le tout virtuellement sur la va de soi. Vous imaginez que ces tonnes de matières premières ne transitent pas réellement par Genève. Sur le papier, c'est pourtant le cas. Beaucoup de ces matières sont produites par une filiale locale, d'une banque suisse par exemple, qui revend à la filiale genevoise. Celle-ci revend ensuite à d'autres filiales qui, finalement, les revendent aux consommateurs. En fait, même si la cargaison n'a toujours pas quitté le port de départ, elle a déjà été vendue 3 ou 4 fois, et ainsi de suite jusqu'à sa consommation.
C'est la base même du commerce, non ?
Absolument. Le problème est que ce système ultra-libéral est devenu incontrôlable. Les opérations effectuées sont de plus en plus extrêmes.
Quelques temps plus tard, la procureure se retrouve avec l'inspecteur Paul Breguet.
Regarde, là, j'ai trouvé.
Quoi ?
Là, la retranscription du conseil d'administration extraordinaire de l'Union Trading en juillet 2010. Sont présents nos deux banquiers helvétiques, deux représentants de la Société nationale nigérienne du commerce du pétrole, Whiteman, Patrick Kelly. Patrick Kelly y annonce un soulèvement du peuple Ogoni, dans une région clé de la production du pétrole au Nigeria.
Et alors ?
Un des banquiers suisses suggère qu'on mate la révolte. Et un peu plus loin, il annonce également que sa banque souhaite faire descendre encore le prix d'achat du pétrole. Les deux représentants nigérians protestent, mais le banquier les rassure. Si la transaction est un succès, votre part vous attendra dans les sous-sols de la place Saint-François. De la corruption pure, un cas d'école. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle un échange aussi dangereux se trouve notifié dans un procès-verbal.
Ah, pourquoi pas ? Ces entreprises ne doivent de compte à personne, elles ne sont en aucun cas obligées de dévoiler leur cuisine interne.
Non, tout de même, la prise de risque est énorme.
Peut-être aussi qu'il s'agit d'une retranscription officieuse. Ça pourrait être quelqu'un qu'ils auraient espionné durant la réunion.
C'est possible. Ce qui est certain, c'est que notre informateur a réussi à reconstituer le montage foireux des banquiers suisses. Si tu veux mon avis, les choses se passent comme ça. Étape numéro 1. Grâce à ses petits amis, l'Union Trading achète à la compagnie nationale nigériane du pétrole à prix bradé. $83 le baril, revendu à $85 aux Suisses. Soit un bénéfice net de $73 millions par année. Ce bénéfice est versé à Wash Machine, grâce, j'imagine, à une série de prétextes foireux du genre...
Optimisation fiscale.
Exactement. Wash Machine ouvre ensuite des comptes dans une grande banque suisse, puis via des sociétés écrans, rétribue Whiteman et Kelly pour leurs services.
Donc chaque année, les deux hommes, qui ont l'air d'être assez proches du pouvoir fédéral nigérian, empochent $36,4 millions.
Simplement pour avoir accordé à l'Union Trading le droit de négocier le pétrole que la Société Nationale Nigérienne du Commerce du Pétrole vend à la Suisse.
Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ce serait quoi ?
Deuxième étape, la banque suisse, unique client de Union Trading, revend ce même pétrole à ses propres clients. Mais cette fois-ci au prix du marché, soit en ce moment quelques $90. Elle prend $5 de marge sur chaque baril, ce qui fait 82,5 millions de marge chaque année.
Waouh, pas mal !
Sur ces 82,5 millions, estimons à 20% le montant que la banque suisse peut légalement déclarer.
C'est-à-dire ?
Si elle avait acheté du pétrole à l'Union Trading à un prix normal, elle aurait eu une marge moins importante. J'estime donc que ces 82,5 millions sont composés à 20% de marge normale et à 80% de marge exceptionnelle, ou frauduleuse.
Ok, donc en fait, la partie légale, elle suit le circuit habituel, donc elle transite via toutes les filiales des banques suisses à travers le monde pour trouver le meilleur paradis fiscal.
Le reste, l'exceptionnel, est discrètement versé à l'une des multiples sociétés créées par nos deux banquiers. Le banquier, l'avocat et le négociant se taillent la part du lion et se partagent 80% des bénéfices occultés de la banque suisse sur le pétrole nigérian. Ce qui nous fait la somme de 66 millions par année. C'est pratique, c'est divisible par 3. 22 millions par tête de pipe. Bande d'enfoirés.
Et bien voilà, on vient d'entendre cette mise en onde on en parlera tout à l'heure avec Sébastien Meyer, d'une partie de son roman qui se joue notamment entre la Suisse et le Nigeria sur fond de pétrole et de banques et de corruption. Ces informations que je viens de donner un peu brutes comme ça, comment toi t'as réussi à les glaner pour monter ton roman Le Nom du Père ?
Dans Le Nom du Père, il n'y a pas vraiment d'informations qui soient particulièrement nouvelles. Tout ce qui est décrit et écrit dans le livre sont des informations que j'ai pu trouver soit dans le livre de la déclaration de Berne qui s'appelle Swiss Trading, soit dans des coupures de presse, soit dans des journaux. Donc, je veux dire, ce sont des sujets qui sont assez récurrents et dont on parle assez fréquemment. Après, l'avantage de la fiction, c'est-à-dire en l'occurrence du roman, c'est de pouvoir élargir les informations que j'ai pu glaner ci et là pour reconstituer une histoire qui soit cohérente et qui donne l'impression d'aller du début à la fin de la chaîne, justement du négoce des matières premières.
Alors, peut-être quelques mots sur l'intrigue de votre polar.
Paul Breguet est donc le personnage principal qui était déjà dans le premier, qui revient dans le deuxième et qui, forcé, contraint, va enquêter sur une multinationale du négoce qui s'appelle dans le roman BF Hague et qui est un peu un clone de ce que dans la réalité on pourrait désigner comme Glencore.
Par exemple.
Jean-Luc. Pour revenir à ces investigations que vous avez menées, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, la déclaration de Berne dénonce quand même beaucoup ce qui se pratique hein, au niveau des multinationales, surtout du négoce du pétrole. Mais en fait, comment vous avez abordé le sujet ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut lire des livres, après on peut aller discuter, mais enfin, quelle était la démarche en fait pour... Je sais que... j'ai lu que vous étiez très intéressé par l'économie, hein, parce que tout le monde financier. Donc c'est quand même une volonté de votre part d'aller vraiment chercher l'information avant d'écrire le roman. Quoi.
Oui, tout à fait. Et puis particulièrement sur ce roman-là. Alors, Par rapport au monde économique, de toute manière, c'est effectivement un univers qui m'intéresse énormément et que j'ai depuis toujours très envie de creuser et que je creuse régulièrement. Enfin, je me tiens assez au courant de ce qui se passe pour une simple raison, c'est que je considère que c'est une clé de lecture très très importante du monde dans lequel on vit et qui est, de manière générale, considérée comme opaque. On ne comprend rien à ce qui se passe, la grande finance, les bourses et tout ça sont des choses qui, finalement, pour le commun des mortels ou pour des gens comme moi, sont assez abstraites, absconses et incompréhensibles. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est d'aller creuser ça, c'est de s'intéresser à ça, puisque finalement, ça guide continuellement notre quotidien. Pour le nom du père, c'est donc plus de 2 ans de recherche, pas forcément à 100%, pas forcément effective, mais c'est 2 ans de réflexion autour du milieu du négoce des matières premières qui a démarré par une lecture qui est tombée un peu par hasard entre mes mains et qui était Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent de Jean Tiglère. Puis à partir de là, je suis monté à rebours dans l'œuvre de Jean Tiglère. J'ai donc beaucoup, beaucoup lu ce que ce monsieur a écrit, avec beaucoup d'admiration d'ailleurs pour ce qu'il a été capable d'écrire et à l'époque surtout à laquelle il a été capable d'écrire ses premiers livres qui dénonçaient notamment le blanchiment d'argent en Suisse. Et puis, petit à petit, je me suis dirigé vers le négoce, de lecture en lecture. Une fois que j'avais beaucoup d'informations, disons, techniques et factuelles sur ce milieu-là, une fois que j'avais un petit peu compris les dynamiques, la manière dont ça se passe, par où le pétrole voyage entre les négociants, les producteurs, les acheteurs, etc., quelle est la différence entre le marché libre et puis la production des multinationales, quelle est la différence entre un négociant en pétrole à Genève et puis une multinationale de type Shell, Exxon ou British Petroleum. Il y a une grande différence, donc il a fallu comprendre un peu tout ça. Et je me suis retrouvé avec une montagne de données qu'il a fallu rendre romanesque. Et c'est là que sont intervenues des interviews.
C'est là qu'intervient l'écrivain.
C'est là qu'intervient l'écrivain, mais c'est aussi là qu'interviennent les vrais gens, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui pratiquent ça. Donc j'ai rencontré des banquiers, j'ai rencontré des traders, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans des ONG. Pas tellement pour leur soutirer des informations, parce que de toute façon, ils n'avaient rien à me dire de particulier, mais surtout pour sentir là, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, comment ils défendent leur métier, comment est-ce qu'on est trader alors que, parce que sinon j'avais pas envie de faire un livre qui soit monolithique et puis militant et puis qui ne fasse que dénoncer ça. J'avais aussi envie de pouvoir parler de voilà comment ces gens-là vivent quand on négocie, comment ça se passe quand on est content d'avoir fait 1 million de bénéfices sur une transaction sur le riz alors qu'on sait très bien et on se doute très bien que cette augmentation du prix du riz va réduire des gens à la famine.
En quelques mots par rapport à l'extrait qu'on a pris là, au début, est-ce que ça serait possible de synthétiser en quelques mots les mécanismes quoi, veux dire, pour un petit résumé, parce que vous le faites très bien dans votre livre. Est-ce que...
Dans le livre, c'est déjà une synthèse et c'est déjà, disons, un peu cavalier, comme c'est bourré de raccourcis. Mais disons que pour la situation qui m'a intéressé dans ce roman, on a donc cette gigantesque multinationale qui s'appelle BFAG, qui est basée à Lausanne, qui a une succursale à Genève pour des questions de proximité avec la place financière, et puis qui a après des succursales un peu partout dans le monde. Et il y a une société de joint venture qui s'appelle Union Trading et qui sert en fait les intérêts à la fois de la BFAG et de la NNPC, enfin National Petrol Company du Nigeria, et qui, elle, est chargée de récolter les impôts que lui payent en baril les majors américaines qui font l'exploitation à proprement parler. Donc la multinationale que moi je décris ne fait pas d'exploitation directe, mais elle se contente de récupérer des impôts en payant et en corrompant. Les des hauts dignitaires nigérians.
En offrant des pots de vin.
Voilà, des pots de vin et tout ça qui se retrouvent
à Saint-François. Plus que des pots de vin, c'est des gros pots de vin.
C'est des très gros pots de vin qui se chiffrent en millions, etc. Donc voilà, c'est un peu ça la dynamique. Donc récupérer du pétrole nigérian en offrant des pots de vin, le faire transiter ensuite entre Genève et un peu partout dans le monde pour faire de l'évasion fiscale, etc., etc., etc. Dans la réalité, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, c'est évident. Un peu plus opaque aussi, parce que si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il y a longtemps qu'ils auraient cessé leur petite magouille. Mais pour un roman, c'était suffisant et suffisamment crédible. Donc la dynamique est réelle, elle est crédible. Après, c'est un peu plus complexe, disons.
Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure à l'aspect militant que peut prendre votre livre. Mais je trouvais intéressant de voir le passage, justement, de toute cette matière que vous accumulez. Et ensuite, comment on construit un roman, quoi, avec tous ces personnages qui sont quand même fascinants. Et surtout, c'est des personnages qui existaient déjà dans votre premier, premier roman.
C'est tous les personnages du premier roman. Alors, du coup, j'ai aussi choisi d'avoir, par rapport à ces personnages, un regard très naïf dans le sens où aucun des deux, que ce soit Rossetti ou Paul Breguet, ne connaissent exactement le milieu du négoce. Et ne
Ils
savent
sont un peu naïfs, à
Ils
quelque
sont
part.
Un peu naïfs. Donc, quelque part, ce qui était intéressant là, c'était de pouvoir faire découvrir à ces personnages les réalités de ce milieu en même temps que je le fais découvrir au lecteur et que je le découvrais moi-même. Donc, ça, c'était une sorte de facilité. Donc, je n'ai pas choisi un journaliste qui était déjà hyper au courant parce que sinon, toutes les explications auraient eu l'air redondantes, un peu pédantes. Et puis, vrai, je n'avais pas du tout envie de faire la leçon, genre, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et puis apprenez de ce livre. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Moi, mon but, c'était de faire un roman à suspense, de faire un vrai thriller économique qui ait du rythme, qui soit agréable à lire, qu'on ait envie de lire, et que néanmoins, on en apprend un petit peu quelque chose sur le monde qui nous entoure. Pour moi, c'était vraiment ça l'enjeu. Et pour parvenir à ça, il fallait... fallait pas que je perde de vue que j'étais en train d'écrire une fiction et non pas un pamphlet ou disons un livre de qualité journalistique. Je suis vraiment dans la fiction.
Mais c'est une bonne façon d'atteindre le public sans s'appeler Jean Sigler qui a fait des merveilles avec des descriptions dans ses livres, mais d'atteindre un public qui adore les romans policiers tout en apprenant que derrière il y a un marché corrompu, que le monde fonctionne un peu comme vous le décrivez là, c'est-à-dire avec une sacrée jambe cassée, quoi.
Oui, c'était un peu le but du jeu, c'était de mêler l'utile à l'agréable, disons. Mêler une lecture qui soit plaisante, qui soit rythmée, qui vous plombe pas non plus votre dimanche soir, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus aussi de se scandaliser pour tout et de rien, d'être perpétuellement titillé dans notre indignation. Donc le but du jeu, c'était d'apporter un éclairage qui soit assez froid, et puis qu'en tant que lecteur, on se sente ni bête, ni impuissant, ni coupable, ni complice, ni rien du tout, mais simplement d'apporter un éclairage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ça.
Et puis, votre découverte à vous de ce monde-là, vu qu'avant de l'écrire et avant de le transmettre au lecteur, ben, vous l'avez découvert, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était quoi? Vous tombiez des nues
Non, je ne tombais pas des nues dans le sens où, enfin, je veux dire, il faudrait être particulièrement naïf pour penser que
ou déconner.
Dans ces sphères-là, les choses se passent dans le meilleur des mondes et puis que tout est joli. Enfin, je veux dire, on sait assez bien qu'à la fin de la chaîne, il y a beaucoup d'argent pour nous et puis au début de la chaîne, il y a des morts pour eux. Donc c'est ça, c'était pas nouveau. Après, ce qui était étourdissant, ce qui m'a glacé le sang, c'était de voir la complexité de ce qui a été mis en place, l'absurdité et la bêtise généralisée qui consiste à mettre en place ces systèmes-là par simple cupidité et à pas du gain. Et il y a vraiment, dans Swiss Trading par exemple, il y a des anecdotes qui sont effarantes de bêtises. Le type qui négocie du pétrole puis qui se rend pas compte que ce pétrole, il faut le raffiner d'abord, mais comme il est tellement dégueulasse, personne veut le raffiner, donc il le raffine sur un raffio, enfin sur un pétrolier. Et puis ça fait des déchets, puis les déchets sont en train de ronger la coque, et puis personne ne sait où il va foutre ses déchets, puis finalement il termine en Europe du Nord, ça crée une énorme catastrophe écologique, et tout ça est une bêtise profonde. C'est vraiment, le type il s'est dit je vais faire un bon coup, je vais me faire plein de millions, super, bravo, haha, il a fait péter le champagne, et puis deux mois plus tard il s'est rendu compte qu'il avait généré la plus grosse catastrophe écologique de l'Europe du Nord. Il faut vraiment être con.
Mm-hmm. Et le dénoncer, on sait que ça ne suffit pas. Hein. Et c'est un petit peu la problématique qui existe. Hein. C'est que des fois, on est démunis face à cette question. Mais par contre, on sait qu'il y a une initiative qui a été lancée. J'imagine que vous la connaissez, quoi, celle de multinationales responsables protégeant mm-hmm. des droits humains. Est-ce que vous pensez qu'un livre tel que le vôtre puisse faire, puisse sensibiliser les gens à ce niveau-là, puisse être aussi... Je veux dire, une bonne lecture de base aussi pour que des gens se réveillent un peu par rapport à ça.
Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est à chacun de considérer ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire avec les informations qui sont contenues dans ce livre. Moi, j'ai juste essayé de présenter une situation avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible. C'est-à-dire que j'ai aussi essayé de présenter avec bonne foi le point de vue, par exemple, du PDG de cette grande multinationale et des raisons pour lesquelles il est à ce stade-là.
On parle de Beat Flückiger.
Ouais, Beat Flückiger, qui est donc le patron de la BFAG et qui défend un discours ultra-protectionniste, à la limite du patriotisme rudimentaire, comme quoi, voilà, si c'est pas la Suisse qui fait ce genre de transactions, ce seront d'autres, donc autant les faire nous et puis gagner du pognon avec ça. Il est ultra cynique, c'est odieux, mais j'ai aussi essayé de présenter ça avec le plus d'honnêteté pour me dire, ça fait aussi partie des réalités dans lesquelles évoluent mes personnages et dans lesquelles nous évoluons tous. Après, je crois que c'est pas la mission de ce livre, c'est pas un livre militant, il a pas pour mission de sensibiliser les gens à quoi que ce soit. Tout ce qui m'intéressait, c'était de plonger dans ce milieu-là et puis d'en dire quelque chose, et puis voilà.
D'ailleurs, vous l'avez aussi dit que c'est un livre qui a été réécrit plusieurs fois parce que justement vous deviez jouer en fait cette question d'intrigue et toutes ces notions, enfin je dis toute cette connaissance que vous aviez accumulée. Et ça, c'était assez compliqué justement de jouer là-dessus, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, ça a été extrêmement difficile de trouver en fait le bon équilibre entre déballage d'informations factuelles sur ce monde-là, fiction, rythme, être dans la réalité, être dans la fiction. C'était très très délicat, donc ça, c'est effectivement un livre qui m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps de l'écrire, j'ai dû revoir ma copie un nombre de fois incalculable pour justement trouver cet équilibre qui fait qu'on a un livre qui à la fois se tient en lui-même et comme œuvre littéraire et à la fois une présentation honnête intellectuellement d'un contexte, disons.
Nous sommes en compagnie de notre invité Sébastien Meyer pour parler du négoce des matières premières, du pétrole notamment. Fabio, quelques mots peut-être par rapport à cette initiative dont tu nous parlais.
Une initiative pour des multinationales responsables qui prévoit l'introduction dans la loi suisse d'un devoir de diligence des entreprises. On parlait de Glencore, donc de ces entreprises de négoce qui arrivent à payer extrêmement peu d'impôts dans les pays dans lesquels elles travaillent, là où elles font de l'extraction de pétrole ou d'autres matières, que ce soit le cuivre, l'or ou les céréales, etc. Et en Suisse non plus, elles sont pas du tout surveillées par rapport à toute une série d'actions néfastes qu'elles ont dans les pays, notamment en termes de non-respect des droits humains et des droits de l'environnement. Et cette initiative qui va être déposée le mois d'octobre à Berne et qui a été lancée par une septantaine d'organisations non gouvernementales en Suisse, elle veut justement mettre dans la Constitution suisse un article qui prévoit le devoir de diligence de ces entreprises pour qu'il y ait un contrôle sur leur action dans les pays.
Malheureusement, il n'y a pas un risque que ces multinationales partent du territoire suisse. Du coup, on perd carrément tout.
J'anticipe assez facilement l'argument selon lequel, effectivement, toutes ces entreprises vont se tirer, elles vont aller faire de l'argent ailleurs. J'ai envie de dire, mais tant mieux! Mais qu'elles foutent le camp!
Mais alors, ne faudrait-il
mais
pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on se dise, nous, Suisses, profitons au moins des quelques millions qu'ils pourraient nous rapporter?
C'est une mentalité assez maigre.
Sébastien Meyer.
Ça, c'est une toute petite mentalité. Ça veut dire qu'on est d'accord de se rendre complice à partir du moment où on peut se payer une BMW? Ça nous fait ressembler à quoi exactement?
C'est les propos de Batflucq hier, mais qui défend un peu le service social. Bah, c'est ça qui est assez intriguant.
Il défend ça en disant mais faisons de l'argent, c'est comme ça qu'on va payer votre AVS, c'est comme ça qu'on va payer tout ça. Mais on se fout de la gueule de qui?
Parce qu'on parle de redistribution. On dit gardons ces entreprises parce que comme ça au moins elles nourrissent les caisses collectives. Après, comme ça, on peut redistribuer cette manne. Et puis pour finir, on remarque que, les taxations sont extrêmement faibles. Et deux, la redistribution, elle n'existe pas.
Ouais,
ou en tout cas, elle n'existe, mais
proportionnellement, elle vaut rien. Interdire à ces entreprises d'aller exploiter d'un côté.
Ce qui est quand même le plus grave, c'est qu'elles payent très peu d'impôts dans les pays où elles travaillent, quoi, où il y a des exploitations.
Oui, parce que ces multinationales, elles ont des pouvoirs qui sont quasiment similaires à ceux des pays dans lesquels elles vont exploiter du pétrole. Enfin, je veux dire, elles sont énormes. 140 milliards de chiffre d'affaires pour Glencore, c'est l'équivalent du PIB de la plupart des pays subsahariens. Je veux dire, à partir de là, il faut bien se dire qu'on lutte pas là, que ces pays ne luttent pas à armes égales contre des multinationales de cette taille. C'est gigantesque. Donc si les pays occidentaux, qui ont encore des gouvernements qui tiennent un tout petit peu la route, n'ont pas le courage de faire quelque chose par rapport à ça, et puis de dire non, le respect des droits humains passe avant la cupidité et l'appât du gain, c'est vraiment qu'on a un problème. Donc la responsabilité, elle nous incombe. Ici, chez nous, de faire quelque chose.
Oui, mais il y a effectivement l'observation des droits humains, mais il y a aussi la possibilité de rendre effectivement un peu plus riches les pays dans lesquels ces extractions sont. Alors qu'on remarque que ce sous-sol, la richesse du sous-sol, elle est complètement bradée. La corruption fait que les gens se sucrent au passage, que les caisses des États ne sont pas du tout renflouées par cette richesse immense. On parle du pétrole, mais on pourrait parler du cuivre,
Le chiffre que je cite dans le nom du père, c'est que l'argent du pétrole au Nigeria n'arrose qu'1% de la population. Ce sont des milliards, il n'y a qu'1% de la population nigériane qui profite de cet argent-là. Or, c'est leur sol qui est exploité.
Oui, oui.
Voilà, bon, on a fait un bon tour de cette situation du pétrole qui est ô combien compliquée. On aura l'occasion d'en reparler, Fabio, j'imagine, un petit peu aux environs de l'automne, quand cette initiative sera déposée.
Juste peut-être un petit mot pour que Sébastien puisse nous dire qu'il y a c'est une trilogie, donc il y aura un troisième. Il y aura
le troisième.
Livre. Alors, je pense que c'est juste bien, peut-être. Non, je ne sais pas si on peut déjà l'annoncer, mais je crois que c'était...
Oui, je crois qu'on peut l'annoncer.
Oui. Donc il y aura un troisième livre.
Il y aura donc un troisième, je suis dessus. Après, je ne peux absolument pas articuler de date de sortie ou quoi que ce soit. Je ne sais à peu près pas du tout le contenu.
Eh bien, vous nous le transmettrez, puis on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là.
Absolument.
Comme ça, on fera l'analyse de la trilogie. Merci beaucoup, Sébastien Meyer.
Merci à vous.
D'être venu mettre en lumière les arcanes de l'univers des matières premières et le rôle de la Suisse dans le négoce fort rentable, ma foi. On rappelle le titre de votre livre, Le nom du père, aux éditions Zoé. Oui. Donc on peut trouver dans toutes les grandes librairies.
Absolument, même dans les petites.
Même dans les petites,
j'allais dire. Dans les petites.
Surtout.
À la conception, à la réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la semaine prochaine. One book.